Je vous propose qu'on commence par la prière. Seigneur notre Dieu, tu vois Seigneur, on vient dans une simplicité de cœur, dans l'humilité, telle que nous sommes, portant cette joie que tu mets dans notre cœur pour faire les choses comme des enfants. Nous t'avons chanté, loué, prié, nous avons partagé, tu nous as parlé encore. Et nous allons continuer maintenant en méditant ta parole, en sachant que ta parole, c'est une lumière qui nous guide. C'est une lumière et en même temps des rails dans lesquels tu nous protèges, tu nous gardes. Tu nous appelles toujours à revenir vers ta parole, mais ne pas nous contenter seulement de la lettre des mots. Tu nous dis aussi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous parler à travers ta parole et à travers cette modeste méditation. Que l'orateur le premier soit éclairé, remis en question, avant que mes frères et sœurs puissent recevoir quoi que ce soit de ta part. Et je te remercie par avance, car tu prends toujours le meilleur de ce que nous disons, après l'avoir sanctifié, pour l'écrire dans notre cœur, pour nous mener au meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire toi en nous. Encore merci que ta volonté se fasse. Amen.
Amen.
Alors la méditation de ce matin, c'est la suite de notre lecture, notre voyage à travers l'évangile de Marc. On a commencé pas mal de temps et je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur un verset, deux versets, mais je pense que maintenant on va aller un peu plus loin pour en fait qu'on puisse quand même découvrir cet évangile, pas en 2 ans, mais moins quand même. Et là, aujourd'hui, on arrive au chapitre 1, versets 32 à 45, que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas le relire. Vous pouvez le relire chez vous, mais on l'a lu tout à l'heure. Je vous ai dit que ça fera l'objet de le message de ce matin. Au départ, comme je vous ai dit, pour le culte de ce matin, au départ, je voulais mettre de côté cet évangile. C'est-à-dire le message d'aujourd'hui, j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur l'évangile? Parce que je me suis dit, j'ai appris toujours à adapter le message à ce que vit quotidiennement l'Église. Le culte, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait à l'avance pour faire une étude, mais c'est en fait, il faut adapter le message à la vie de l'Église. C'est-à-dire, que veut-il nous dire le Seigneur à travers ce que nous vivons? Donc vous savez que ces derniers temps, nous avons vécu des choses quand même agréables et désagréables qui m'ont amené jusqu'à vous écrire, etc., etc., et peut-être avec maladresse, que sais-je, mais au moins avec sincérité du cœur, je vous ai écrit. Et par rapport à des doctrines qui risquent d'intégrer l'Église. Si je l'ai fait, je peux me tromper. Mais au moins prenez-le comme un acte d'amour de ma part pour préserver l'Église de ces doctrines-là, que j'ai peut-être considérées comme dangereuses pour nous. Surtout que cette philosophie, cette doctrine semble perturber plusieurs personnes, dont moi le premier. Alors je me suis dit, je vais adapter le message à cette situation-là. Mais en relisant Marc, mais je me suis dit, mais ça évoque justement le sujet. Comme nous ne croyons pas au hasard, eh bien je pense que le Seigneur, à moi le premier, veut m'éclairer à travers ce que je vous ai lu dans chapitre 1, Marc chapitre 1, versets 32 à 45. Comme vous le savez, nous croyons que le Seigneur fait des miracles. Le jour où je vous dis le contraire, vous avez le droit de me rejeter. C'est-à-dire que je ne respecte pas la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur fait des miracles et des prodiges hier, aujourd'hui et demain. Là n'est pas la question. Je veux parler de ces mouvements que j'ai connus, dits charismatiques, et qui le deviennent à l'extrême des fois, au point de se demander où est le Seigneur dans leur doctrine. Où est le message de la croix? Quand un homme ou une femme de Dieu vient nous présenter la Bible, discerner où est le Seigneur. Où est la croix? Cette croix qui m'a fait sortir de ma foi d'origine, ma religion d'origine, pour épouser la foi chrétienne, rentrer, accepter le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a la croix que d'autres religions mettent de côté. Depuis quelques semaines, et plus intensément depuis quelques jours, je me suis mis à m'informer, à me renseigner autour de moi et sur le web. Sur ces mouvements en France aujourd'hui. Je ne suis pas allé à l'étranger, en France. Je pensais que la France était un peu épargnée par rapport au pays de l'oncle Sam. Je dis, tiens, c'est les États-Unis, ça. À mon étonnement, moi qui, ça fait depuis des années, je ne m'intéressais plus à ces mouvements, à ces doctrines, j'ai découvert tout un univers qui questionne et pose question. Je suis dérangé. Je dirais même un univers qui peut être dangereux pour l'Église et pour la marche des enfants de Dieu. Et je mesure mes mots et je vous expliquerai tout ça. Un univers, on se donne avec une telle aisance des titres comme prophète, comme apôtre, comme évêque, comme évangéliste. Indépendamment des exigences que le Seigneur impose dans la parole de Dieu. Il n'est pas prophète qui veut. Il n'est pas apôtre qui veut. Il n'est pas évêque qui veut. Quand je pense l'exigence que le Seigneur demande à ces hommes, femmes de Dieu dans la Bible, de sainteté, de crainte et de peur, pour avoir le titre de prophète, quelle facilité aujourd'hui on se donne ce titre. Et on l'affiche et on le revendique. De plus, j'ai découvert que des fois, ces titres sont octroyés indépendamment, je dis bien indépendamment, de tout cadre d'église que le Seigneur a imposé comme représentant sur terre d'église. J'ai découvert que ces titres sont octroyés indépendamment de tout cadre d'église qui est le corps du Seigneur, y compris la vocation de pasteur. On a inversé. Dans la Bible, c'est une communauté existante qui fait émerger un pasteur qui devient berger des brebis. Aujourd'hui, sans communauté, on désigne d'abord le pasteur et on lui cherche une communauté. Vous voyez la subtilité? Il y a de quoi se poser des questions. Dans mes recherches, j'ai découvert aussi, par exemple, et là j'étais tellement étonné, que dans ces mouvements qui pilulent en France, la question du ministère féminin ne se pose plus. Le ministère féminin fait partie. Et au mieux, ce qu'on appelle le ministère du couple. C'est plus maintenant un pasteur, c'est l'homme et la femme pasteur. Je ne sais pas qu'il faut dire pasteur, pasteuse, je n'en sais rien. Mais on l'affiche. Ce n'est pas un secret. C'est affiché tel quel. On les affiche ainsi. Tout ce que je vous dis, je peux vous le fournir, preuve à l'appui. Je ne parle pas qu'on l'est. On est en train d'aller non seulement contre la parole de Dieu, mais au-delà de ce qu'elle peut préconiser. Mais si ce n'était que ça, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas grave, on peut y remédier. Il suffit de prier que le Seigneur remédie. Peut-être que ce n'est pas trop grave, mais hélas, dans ces milieux, ça va plus loin. J'ai vu des soi-disant hommes et femmes de Dieu prendre autorité sur l'Esprit de Dieu en lui demandant de se répondre sur les uns et les autres. Donner des ordres, j'y viens des ordres. Au Saint-Esprit, voilà. Au Saint-Esprit, voilà. Et c'est des choses visibles qu'on trouve sur Internet. J'ai découvert un phénomène qui n'est pas nouveau, certes. Celui de la psychologie dite chrétienne, avec du coaching utilisant des méthodes du monde. Déclarée dans le monde comme celle, reconnue comme entreprise, mais on l'intègre dans l'Église. Une psychologie et des méthodes qui tendent à conditionner le chrétien, y compris avec une musique de fond envoûtante qui accompagne les prédications théâtrales que j'ai montrées aux enfants. Des soi-disant hommes et femmes de Dieu. Souvent, cette atmosphère est accompagnée d'un parler en langue, présenté comme le langage des anges, et dont les humains ne comprennent pas. Raison de plus, pour ceux qui écoutent qui regardent Internet, je ne comprenais rien. Comment ça parle au monde? Comment on peut évangéliser avec un... Mais c'est des fous. J'ai même découvert la promotion de phénomènes surnaturels. Et là, ça devient dangereux. Vous voyez? Je monte petit à petit. J'ai même découvert la promotion de phénomènes surnaturels mis en avant par des milieux chrétiens qui m'ont rappelé ce mouvement de Toronto des années 90 où on se roule comme des animaux. On aboie, on miaule, on rigole et on attribue cela au Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Si ça, ça ne vous dérange pas, à moi aussi ça me dérange. Quel respect, au moins le respect pour le Saint-Esprit. Photo à l'appui, un soi-disant apôtre vante des phénomènes surnaturels. Écoutez bien, comme des paillettes d'or et d'autres métaux qui apparaissent sur des mains. J'ai envie de dire, c'est quel esprit on parle là? Le Seigneur a fait ça? Des essuie-glaces qui commencent à bouger tout seuls. On dit c'est le Saint-Esprit. Des boulons qui se desserrent miraculeusement. Une voiture qui se fait le plein toute seule. Ce que je dis là, vous avez l'obligation, mes frères et sœurs, de me demander des preuves. Et je vous les montre. Je ne dis pas comme ça. Non. Les chiens qui aboient bizarrement. Des prophéties du genre voyance qui prédisent qui sera le chef d'État des États-Unis, en Afrique, etc. Et même des miracles sur des chats. Et on attribue ça au Saint-Esprit. J'ai remarqué deux points communs quand même à ces mouvements. Le premier, c'est la présence du « je ». Dieu m'a dit, laisse-moi pas parler. Mais aussi un autre point commun, et je vous le montre. C'est l'appel direct et subtil au soutien financier, jusqu'à culpabiliser les gens, à travers des dons et des formations payantes. Tout ça au nom du Saint-Esprit. Ces choses que je suis en train de vous exposer, mes frères et sœurs, sont récentes et actuelles. C'est de nos jours, ce n'est pas de l'histoire. Ce ne sont pas l'œuvre des sectes reconnues comme telles, hein, pas du tout, mais de plusieurs mouvements qui se disent mouvements chrétiens reconnus comme tels. Au départ, on rit, mais tout de suite, après, on commence à s'inquiéter, car c'est très dangereux. Ça touche du domaine de l'invisible, du spirituel, si ce n'est pas du spiritisme, entre guillemets. Ça touche au monde des esprits. Il ne faut pas s'amuser avec ça au risque de brûler, au risque de se voir entrer dans un monde qu'on ne maîtrise pas. Je me suis posé la question, où est la justification de ces phénomènes dans la parole de Dieu? La réponse est claire, ça n'a aucun lien avec ce que le Seigneur nous a laissé dans la parole de Dieu que nous lisons ensemble. C'est là, c'est la Bible. Nous prenons la Bible et regardons ensemble. Alors je crains que ça soit en lien avec le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21, 24. Chapitre 7, 21, 24, je ne vous le lis pas. Mais c'est là où il dit. Il y aura des faux prophètes. Ils feront des miracles. Ils feront des prodiges. Mais, il a dit, beaucoup vont venir après, ils vont me dire, mais Seigneur, on a profité en ton nom. On a fait des miracles. Oui, ça peut se faire en dehors du Seigneur, en dehors du Saint-Esprit. Il leur dira, retirez-vous de nous. je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Attention, frères et sœurs. Ou par la bouche de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1 à 3, j'ai pas marqué, 2 Pierre 1 à 3. Donc je pense que j'ai oublié le chapitre, mais vous regarderez. Donc je vous lis, voilà ce qu'il a écrit Pierre, pour nous avertir. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renieront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeil point. Ça me fait trembler. Ne jouons pas avec ça. Il est de mon devoir, mes frères et sœurs. Je ne cherche pas à être aimé, apprécié, mais il est de mon devoir de vous en parler. Il est de mon devoir d'en parler encore plus en détail au conseil de l'Église, et c'est prévu que j'explique à Didier et Jean-Louis plus en détail. Mais il est de mon devoir de vous exposer, mes frères et sœurs, tel que je vois les choses, et comme je dis toujours, je crois en Dieu grand. Si je me trompe, il saura m'arrêter. Il vous préservera. Le Seigneur nous demande d'éprouver les esprits dans la prière en nous appuyant toujours sur la parole de Dieu. Jean, chapitre 4, verset 1, je lis, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Après cette longue introduction que je me tenais à vous faire, ben nous allons revenir maintenant à notre passage que nous dit la parole de Dieu. Dans le passage que je vous ai lu, il y a deux parties qui font qu'une, comme une pièce de monnaie, pile face. Nous avons commencé par le verset 32, chapitre 1, verset 32, il est dit « le soir ». Et ça continue vers le verset 35, il est dit « le matin ». Eh bien, il faut savoir que le soir et le matin, dans ce passage, débouchent sur une troisième partie. D'accord ? À partir du verset 40, et qui donne sens à ce qui se passe le matin et le soir, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Cette troisième partie, elle parle de la purification. Mais pour arriver à cette purification, il y a d'abord ce qui se passe le soir, verset 32, et le matin. Ça m'a fait penser aux premiers versets, les premiers versets dans la Genèse. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le jour 1, 2. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de jour parce qu'il y a le soir et le matin. On ne peut pas dire, le jour c'est seulement le soir, ou seulement le matin, non. Les deux font que le jour existe, comme une pièce de monnaie, il faut qu'il le fasse. Donc il faut prendre l'ensemble, pas prendre que le soir ou le matin, ce qui se passe le soir ou le matin, non. Prendre le tout, s'il n'y a pas le tout, il n'y a rien. Un jour n'a de sens parce qu'il y a un soir, un matin, chacun s'alimente de l'autre. Mais avant de rappeler ce qui s'est passé, avant de rappeler notre étude, je voudrais bien revenir sur le contexte. Le contexte qui est ce qu'on avait avant, du verset 1 jusqu'au verset, on va dire, jusqu'au verset 31. Le premier verset de l'évangile de Marc, en quelque sorte, porte le titre « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Le premier verset, on a dit, c'est le titre de tout ce qui va se passer dans l'évangile. C'est-à-dire tout l'évangile nous explique qui est ce Seigneur qui est fils de Dieu et Christ. Et après, Marc nous explique tout le contenu. Ça n'est rien d'autre que l'explication de cet échange entre Jésus et Pierre quand tu lui as dit « Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre lui a dit « Tu es le Christ, fils de Dieu. » Comme par hasard, c'est le titre de l'évangile de Marc. Et le Seigneur lui a répondu « Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, réaliser que notre Seigneur est fils de Dieu et Christ, c'est le fondement de notre existence, de ce fait qu'il y a l'Église. Si on ne croit pas en ce Seigneur, principalement à lui et lui seul, comme le Fils de Dieu et le Christ, on est à côté de la plaque. Le ministère du Seigneur a commencé après son baptême qui l'a amené vers le désert. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur est sorti vainqueur de sa tentation dans le désert. Et c'est seulement après qu'il a commencé son ministère. On est d'accord? Bien. Et bien ce qu'il a vécu, il est en train de nous dire, c'est le même chemin qu'on doit suivre. C'est aussi simple que ça, pourquoi nous compliquons? Il est en train de nous dire, le baptême c'est un début, c'est une confession, on n'a que le Seigneur, donc Mais après, il faut passer par le désert. Nous, on veut gommer le désert. Il faut passer par le désert. Dans ce désert, il nous enseigne, etc., pour nous faire rentrer ce qu'on appelle dans la vie de l'esprit, la vie de vainqueur. Et c'est seulement à ce moment-là que le Seigneur peut œuvrer à travers nous. Il veut nous emmener vers l'état d'homme fait. C'est ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Mais c'est le cheminement, normalement, de chacun de nous. On ne doit pas rester seulement au niveau du baptême. Il faut laisser le Seigneur passer par le désert. Mais pourquoi il parle de désert? Le désert, c'est ce qui s'est dressé devant le peuple de Dieu avant d'atteindre la terre promise. On l'oublie, ça. Que dit la Bible sur le désert? Osée, chapitre 13, versets 4 et 5. Voilà ce que dit Dieu par rapport au désert. « D'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. » Écoutez bien. « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Le désert me permet de connaître Dieu. Si je ne passe par le désert, j'aurai que des idées. Je vais me fabriquer une religion. Ah, beaucoup de choses, hein. Mais je ne connais pas Dieu. C'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. Un autre passage nous donne encore plus de sens. Deutéronome, chapitre 8, verset 1 à 3, mais je vais lire juste le 2 à 3. Regardez bien. Il parle, peuple hébreu, hein, il lui dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Il dit, « Souviens-toi, rappelle-toi. » Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais ou non ses commandements. Le désert, c'est une épreuve qui dure. Dieu nous éprouve, nous éduque, pour qu'on puisse le connaître et en même temps découvrir qui nous sommes réellement, pour rentrer dans une véritable repentance. Voilà ce qu'il dit encore de même. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Dans la souffrance, tout ça, il ne nous a pas abandonné parce qu'il donne la manne. Et tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Pourquoi faire? Afin de t'apprendre, écoutez bien, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Comment pourrais-je savoir déguster la parole de l'Éternel si je ne passe pas par le désert? Deutéronome 8, 1, 3. Souvent, on cherche à atteindre la terre promise sans passer par le désert, en détournant le désert. On veut l'effacer. On détourne le désert. Au meilleur des cas, on demeure des enfants spirituels, se limitant au lait, l'apôtre Paul l'a rappelé, sans progression et incapable de digérer une nourriture solide, incapable de discerner la volonté de Dieu. Des chrétiens vacillants, vulnérables et perméables aux différentes doctrines florissantes. Et voilà la nature humaine qui va chercher son plaisir. Pourquoi? Enfin, pour cacher notre misère spirituelle. Et au pire, venir avec son arrière-plan et le préserver dans une marche chrétienne religieuse. Et je l'ai remarqué en cherchant encore sur Internet. C'est le cas des personnes qui ont côtoyé l'occultisme et qui ne passent pas par le désert de la repentance, du pardon et de la délivrance. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais ils vivent leur vie chrétienne en maintenant l'occultisme. C'est là une situation très dangereuse pour eux et pour leur entourage. S'ils cherchent à servir le Seigneur sans être délivrés de leur arrière-plan spirituel. Créer une communauté ou s'attacher à une communauté qu'on appelle Église, comme nous, ne garantit pas la délivrance. Ce n'est pas ça qui fait qu'on ira au ciel. Pas du tout. On peut venir tous les jours ensemble, mais ce n'est pas ça qui garantit la délivrance et l'éternité. C'est notre relation intime, personnelle avec le Seigneur qui va s'occuper de nous dans notre désert, qui fait de nous des disciples fidèles et obéissants. N'oublions pas que le premier miracle que le Seigneur a accompli dans l'évangile de Marc, c'est celui de délivrer un démoniaque dans une synagogue, la maison de Dieu. C'est le premier miracle qu'il a fait dans l'évangile de Marc. Ce passage nous montre que nous devons être vigilants. Le diable cherchera toujours à s'introduire au milieu du peuple et sans discernement ne pourront succomber facilement et dangereusement, ne pourront vivre une vie chrétienne tout en étant entre les mains du diable. Il faut le dire. Toujours dans notre contexte, Simon et son frère André sont les premiers à recevoir l'appel du Seigneur, quand on lit Marc. Ils ont décidé de tout lâcher pour le suivre. Ça, c'est pour nous aussi un enseignement. Ils ont assisté au miracle accompli par le Seigneur dans la synagogue, en délivrant le possédé qui avait des esprits dans la synagogue. Et ils ont accueilli le Seigneur par la suite dans leur demeure. Ils l'ont accueilli dans leur cœur et dans leur foyer. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu le Seigneur de leur vie, pas seulement à la synagogue, pas seulement une fois ou deux par semaine, mais tous les jours et partout, surtout dans leur foyer. Leur foyer devient alors une bénédiction pour leur entourage, car le Seigneur y demeure. Et comme le Seigneur y demeure, rien ne peut enfreindre cette communion. C'est pourquoi le Seigneur a guéri la belle-mère de Simon. Pourquoi faire? Parce qu'il l'a guéri pour le servir. Il est là. Vous voyez, miracle, il y a une raison. Toujours pour le plan de Dieu. Si on vous dit un miracle, mais sans objectif pour la bonne nouvelle, je me pose des questions. Pourquoi les boulangers se desserrent? Où est-ce qu'il y a le plan de Dieu, là? Et on l'affiche? C'est dans ce contexte que nous pouvons évoquer notre passage, où il est question du soir, où le Seigneur accomplit des miracles et des guérisons, parmi un peuple qui s'amassait devant la demeure de Simon, qui est devenue une bénédiction parce que le Seigneur y a accueilli. Et le matin, quand le Seigneur partait dans la prière. Si le Seigneur faisait du bien au peuple le soir, c'est que le matin, de bonne heure, pendant qu'il faisait encore sombre, il se levait pour s'isoler dans le désert pour prier. Oui. Et c'est dans ce moment de prière qu'il discerne la volonté du Père. Ce qu'il fait le soir est le fruit de ce qu'il fait le matin et inversement. Donc, il est bien question de communion dans le désert qui alimente sa marche. Dans mon désert, je vais dans la prière avec mon Seigneur. Et dans cette prière, je crée une intimité. Et tout découle de cette communion de prière avec mon Dieu. Il sait discerner la voix du Père. Autre chose, il n'est pas dit qu'il guérit tout le monde. Ou est-ce que je ne sais pas lire, peut-être? Il est dit, il guérit beaucoup de monde. S'il y a beaucoup, il y en a qui ne sont pas guéris, non? Alors, où est-ce qu'il y a l'automaticité aujourd'hui? Tout le monde doit être guéri. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce qu'il y a une autre réflexion qui m'est venue, je vais vous la donner, en ce que j'appelle le bon sens paysan. Imaginons que tous les chrétiens sont guéris. Il faut bien qu'on meure à jour de quelque chose. Non, c'est pas une question de bon sens. Si on doit prier pour tous ceux qui sont malades, ou de maladie, on ne va plus mourir, non? Ah, peut-être qu'il faut créer un seuil. Jusqu'à 80, on peut prier. Mais au-delà de 80, non, il faut les laisser mourir. Voyez le raisonnement aberrant auquel on peut arriver? C'est terrible. Je me mets plus loin. On peut même tomber dans le piège de l'eugénisme. Un chrétien ne doit pas être malade. Un chrétien ne doit pas être pauvre. C'est terrible quand même. Attention à ce genre de raisonnement. Au lieu de chercher coûte que coûte les phénomènes surnaturels, apprenons à chercher le Seigneur dans notre désert. Cherchons le Seigneur et le Seigneur seul avec un cœur sincère dans l'obéissance, à travers la prière et la méditation de sa parole, et nous découvrirons alors que c'est lui qui mène la barque selon sa volonté, et non la nôtre. Et ça, la nature humaine ne la veut pas. Elle veut maîtriser. Rappelons-nous ce qu'a dit Jésus à Jean-Baptiste. Ça aussi, je voulais vous partager avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jean-Baptiste, le Seigneur, dans Matthieu, chapitre 11, verset 11? Il a dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est-à-dire, dans tous les prophètes, tous ceux qui sont arrivés, Jean-Baptiste est le plus grand. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ça doit nous interpeller. D'accord? Quel est son miracle qu'il a accompli, Jean-Baptiste? C'est la prédication de la repentance. Mais ça, c'est pas grand-chose. Il nous faut les phénomènes. Un autre exemple, je vais vous le donner aussi. Concernant Élie, qui était sur la montagne de Dieu, l'Horeb. Un lieu propice pour rencontrer le Seigneur. On apprend que il essaie de se manifester. Alors on apprend qu'Élie n'a pas discerné la voix de Dieu dans des manifestations qui font du bruit et qui frappent les yeux comme le grondement du ciel, le vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Il n'a pas discerné la voix de Dieu dans le tremblement de terre. Comment Élie a-t-il discerné la voix de Dieu? À travers un murmure doux et léger. Ça ne frappe pas les yeux. Et je vous invite à lire 1 Roi chapitre 19. Vous verrez. Et quand Élie l'entendit, ce doux, une bise. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fait entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Une bise qui lui a parlé. La communion avec Dieu dans la prière est source de toutes nos actions. On apprend à discerner la volonté de Dieu et on apprend à se préserver individuellement, collectivement, de toute fausse doctrine qui flatte notre ego, mais qui nous éloigne du plus grand miracle. Si au cas où on ne maintient pas cette communion, on oublie qu'il y a un grand miracle. Et bien ce grand miracle s'appelle la nouvelle naissance. Voilà le grand miracle, la nouvelle naissance. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est malheureusement que répétition de l'histoire. L'homme a toujours été attiré pour le surnaturel et qu'il détache malheureusement de celui qui en est l'origine. Il en fabrique même d'autres et dans des cas extrêmes, sans discernement, il peut attribuer faussement à Dieu des phénomènes surnaturels qui ont des origines occultes. Et là, c'est très sérieux, je veux qu'on soit alerté. Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Et aux scribes, aux pharisiens, qui voulaient des miracles, le Seigneur leur répond. Dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est quoi le prophète Jonas? C'est les trois jours dans le ventre de poisson. Trois jours, ce n'est rien d'autre que le miracle de la croix. Le miracle de Jonas n'est rien d'autre que le miracle de la croix, mort et résurrection, c'est-à-dire le miracle de la nouvelle naissance. Je parle de la véritable nouvelle naissance et non celle que nous nous fabriquons. Le miracle de la nouvelle naissance annoncé par le Seigneur à Nicodème, quand tu lui as dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Si on n'a pas cette nouvelle naissance, on peut vivre ce qu'on veut surnaturel, il n'y a pas de miracle. Je termine enfin par un point qui me paraît très important. Il est écrit que quand le Seigneur est parti s'isoler dans le désert, dans notre passage, pour prier, il est parti de prier, voilà dans le verset 36-37, je lis, Marc 1, 36-37, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. D'accord? Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Si je comprends bien, encore une fois, tout le monde cherchait le Seigneur. Mais qui l'a trouvé? Les disciples. Mais les autres continuent à chercher. Allez, d'accord, je n'ai rien inventé là. Hein? Tout le monde te cherche, mais eux l'ont trouvé. Alors la foule et les disciples cherchaient le Seigneur. La foule ne le trouve pas, les disciples l'ont trouvé. Pourquoi les disciples l'ont trouvé? Pas qu'ils savent où il est. Il est parti pour prier, donc ils le connaissent. Donc ils sont allés, ils savaient où il est. Ils priaient. Mais la foule continue à le chercher parce qu'ils ne savaient pas où il était. Mais mes frères et sœurs, on a une réponse. Nous cherchons le Seigneur. On le trouve dans la prière. La foule le cherchait pourquoi? Pourquoi le cherchait la foule? Parce qu'il faisait des miracles. Mais elle ne le trouvait pas. Il continue à chercher. Mais par contre, les disciples, eux, le connaissent. Ils l'ont cherché dans la prière. À nous de choisir. C'est très important cette information qui m'a vraiment... Là, je dis, coulez-vous que je dise. Les disciples l'ont trouvé dans la prière, la foule ne l'a pas trouvé parce qu'ils cherchent des miracles, des surnaturels. Alors la question qui se pose, faisons partie de la foule ou des disciples? C'est très important. Nous voulons trouver notre Seigneur? Eh bien, la réponse est claire, c'est dans la prière et la consécration, pas dans les phénomènes surnaturels. La prière alimente notre être intérieur qui vibrera éternellement. Le miracle peut concerner notre corps qui disparaîtra. Vous voyez, c'est... Et la réponse du Seigneur, c'était quoi? Elle est très intéressante, la réponse, quand ils lui ont dit ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais ça, il est où la foule? Je vais la voir. Non, Il leur a dit une réponse bizarre. Il leur a dit, allons ailleurs. Comme il leur dit, mais laisse-les. Non, ça ne m'intéresse pas. Allons ailleurs. Et ça, vous terminez là, tout le passage. Allons ailleurs. Et je vais vous lire ce verset 40-42. Je terminerai. Voilà ce qu'il dit. 40-42. Alors, il faut que je le trouve. Voilà, j'ai dit 40, hop. Bourgade. 38, voilà, 38. Alors, il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin d'y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Pas aller prêcher, pour cela que je suis sorti. Il leur a dit, pas aller faire des miracles. C'est là que je suis sorti, la prédication. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et chassa les démons. Et c'est par la suite, quand il les a amenés avec lui, on assiste à un autre miracle, c'est le miracle de la purification. Et on sait que la lèpre, ça représente dans l'Ancien Testament le péché. C'est l'image du péché. Ça veut dire la délivrance, la purification du péché, ça ne se limite pas au miracle, mais cette bonne nouvelle qui est en nous, qui mène vers la purification. Et ça, c'est un miracle qu'il fait dans le cœur. À travers ce miracle, le Seigneur s'intéressait à la purification de notre âme, au-delà du miracle visible. Cette purification a besoin d'un cheminement qui peut prendre un certain temps, court, moyen et long, selon les uns et les autres. C'est pourquoi le Seigneur a demandé et recommandé sévèrement aux lépreux guéris de ne pas trop le crier sur les toits. En fait, c'est pour laisser l'Esprit de Dieu œuvrer en lui, pour transformer cette guérison visible en une véritable guérison intérieure. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne veut pas marcher dans le désert pour laisser l'Esprit nous transformer. On veut tout de suite commencer à le crier. Bon, on connaît l'histoire. Le Seigneur ne pouvait même plus rentrer dans la ville. Il ne pouvait même plus annoncer la bonne nouvelle. Il se tenait à l'écart. Et que c'est pour ça, quand on commence à chercher le surnaturel, que le surnaturel, on ne se rend pas compte qu'on va à la rencontre de la volonté de Dieu. En conclusion, mes frères et sœurs, faisons attention à ce qui frappe les yeux. Et il y a des choses mauvaises qui viennent de l'homme, mais il y a des choses dangereuses qui ont des origines spirituelles. Ne succombons pas à la tentation et prions Dieu qui nous délivre du mal. N'ouvrons pas la porte à des doctrines séductrices et dangereuses qui nous détournent du droit chemin et qui nous privent du miracle de la nouvelle naissance. On sera peut-être peu. Et peu importe, c'est le prix à payer. Voulons-nous être comme la foule, la masse, ou seulement quelques disciples? C'est le prix à payer. Le chemin est court et étroit. On peut bien commencer, mes frères et sœurs, et mal finir. On peut être parmi les appelés sans faire partie des élus. On peut être les Hébreux qui sont sortis d'Égypte sans atteindre la terre promise. Sans remettre en question ce que le Seigneur peut accomplir comme miracle aujourd'hui et demain. Restons attachés à lui et à lui seul, comme notre chemin, notre vérité et notre vie. Attachons-nous à lui avec simplicité, humilité, consécration et reconnaissance dans un engagement total et sincère. Alertons-nous les uns les autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Attachons-nous à lui avec simplicité, humilité et reconnaissance dans un engagement total et sincère, dans une vie de prière indispensable pour chercher à le saisir, car il nous a saisi le premier, comme le dit l'apôtre Paul. Il nous mènera alors sur le chemin de l'espérance, de la sagesse, de la justice, de la piété, de la sainteté et enfin de l'éternité. Et je termine par un passage qui va résumer tout ce que je vous ai dit. C'est dans la lettre, l'épître que l'apôtre Paul a envoyée à Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Regardez ce qu'il lui dit. Et prenons ça pour chacun de nous, moi le premier. L'action de la grâce dans le cœur d'un croyant détournera ce cœur du péché et le tournera vers la sainteté. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, le retour du Seigneur, et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Amen.